Bonjour et bienvenue sur Parole d'Humanitaire, le podcast fait par l'humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, humanitaire spécialisée en projet d'aide au développement et à l'origine de cette initiative. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain pour décrypter les nombreux enjeux de l'humanitaire et de la solidarité internationale, mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers liés à ces domaines. Au programme de ce podcast, découverte, partage de connaissances et retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes ensemble? C'est parti! Bonjour Ousmane, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast Parole d'Humanitaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire plus sur votre domaine d'expertise et votre expérience?
Oui, bonjour Asma, merci en tout cas pour avoir créé ce cadre, merci aussi pour l'opportunité que vous m'offrez et merci aussi à tous les humanitaires qui sont passés par là quand même pour partager leur vécu, leur expérience pour la seule cause en tout cas sauver des vies et soulager des souffrances. Donc moi c'est Ousmane Lalo Mahamane Hamissou, humanitaire et spécialiste de la protection de l'enfant et aussi de la coordination des clusters. Donc, je suis dans l'humanitaire, ça fait une quinzaine d'années, en tout cas spécialement dans des zones, en tout cas duelles, si je peux le dire. Donc, le contexte humanitaire qui reçoit non seulement des réfugiés, mais aussi des déplacés internes avec tous les deux, trois types de chocs qu'on pourra savoir, à savoir le conflit armé, le choc lié au changement climatique et le choc aussi lié aux épidémies. Voilà, donc peut-être brièvement ce que je suis, où est-ce que j'interviens.
Ben, merci beaucoup pour cette introduction. Et pour entrer dans le vif du sujet, comment on pourrait qualifier aujourd'hui l'état général de l'aide humanitaire dans un contexte où les financements deviennent de plus en plus instables?
Ah ben, je le dis, hein, vraiment, la mobilisation des ressources ou bien le financement de l'aide humanitaire de manière générale sur le grand défi de tous les niveaux, que ce soit ceux qui sont en charge de la mobilisation des ressources, mais aussi ceux qui sont au niveau opérationnel, qui mettent en œuvre l'assistance humanitaire, mais même les managements, c'est vraiment le grand défi du fait que de plus en plus les opportunités de financement de l'aide humanitaire soient rares, sont aussi orientées d'une zone à une autre, en fonction vraiment de l'ampleur. Donc, sans penser aussi d'autres paramètres que nous, humanitaires, nous ne maîtrisons pas. Donc, les paramètres politiques, géopolitiques, tout ce qui est là, que, peut-être qui influent parfois aussi l'orientation de cette aide humanitaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, aussi, la continuité ou bien la durabilité ou bien la persistance de cette aide humanitaire ou bien de cette assistance ou bien de ce besoin d'être assisté qui dure parfois, qui fait 5, 10 ans, 10 ans en fonction des zones. Cela aussi amène à encore y réfléchir ou bien à investir plus, puisque plus ça dure, plus les nouveaux besoins se créent, sans compter que une communauté qui a reçu un premier choc qui a nécessité une assistance humanitaire peut encore en avoir. Je donne un exemple, une communauté déplacée interne pour une insécurité peut être inondée ou peut être encore victime d'une seconde attaque. Donc tu vois, cette amplification de la situation humanitaire dans le temps et dans les faits fait en sorte que les moyens sont de plus en plus demandés.
Et dans un paysage, et du coup dans ce paysage qui est fragilisé, on l'a vu avec l'actualité et le rôle que jouait l'USAID, que représente la perte de ces financements-là pour l'action humanitaire?
Vous savez, ainsi nous avons des donateurs, des bailleurs connus pour cette assistance humanitaire qui malheureusement se retirent ou bien diminuent. Et même le fait de diminuer les enveloppes habituelles, ça crée le désordre. Ça crée le déséquilibre dans une zone, dans une intervention, à plus forte raison le retrait. Et surtout la manière du retrait, si elle est encore brusque, là c'est le chaos, je le dis. Mais ça a eu un effet, ça a eu des impacts, ça a eu un coût. Dans le contexte, en tout cas, de la réponse humanitaire, c'est qui est sûr, dès que c'est arrivé aussi, on essaie d'y faire face, mais les impacts ont été, des processus ont déjà été lancés pour voir ces impacts, pour voir ces effets à tous les niveaux. Peut-être que ce n'est pas encore officiel. En tout cas, en termes d'organisation, chaque organisation en fait. En termes pays aussi, pareil. Du côté humanitaire, de manière générale, nous ne sommes pas encore rentrés, peut-être que pour voir comment y faire face, mais plutôt s'adapter. Puisque y faire face, c'est trop, mais comment on doit s'adapter avec la nouvelle donne, ce qui a fait en sorte que, si vous remarquez, dans beaucoup de pays, dans là où j'interviens, on a encore revu nos ambitions humanitaires pour l'année à courir, et même pour les périodes à venir. Et ça nous a aussi donné le déclic pour réfléchir sur nos stratégies de mobilisation des ressources et vers qui nous devons aller et comment nous devons faire pour continuer vraiment le financement de cette assistance ou bien pour continuer l'assistance humanitaire. On est tous convaincus que ça peut arriver. Ce n'est pas des choses qu'il y a à planifier, mais quand ça arrive, il faut y faire face.
Et pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, concrètement, quels impacts cette suspension de fonds du coup de l'USAID a-t-elle sur les programmes humanitaires, donc sur les projets qui peuvent être arrêtés, sur des zones qui vont être laissées de côté ou sur des priorités qui vont devoir être revisées?
Oui, bon, en tout cas, et comme je l'avais dit tout à l'heure, même nous n'avons pas encore les statistiques pour mesurer cet impact. Je pense que c'est une stratégie ou bien c'est une décision qui était venue du management, ou bien une décision, je dirais, au haut niveau quand même. Si je remarque le contexte où j'interviens, il n'y a pas eu trop de communiqués pour voir, montrer. Il y a eu des exercices quand même en fonction des entités humanitaires. Si je dis entités humanitaires, par exemple, les organisations internationales ont fait un sondage, ils ont montré les choses. Les Nations Unies en ont fait, mais le pays en tant que tel n'a pas fait trop de communiqués là-dessus au vu du contexte. Mais ce qui est clair, on a essayé du côté interne organisation, ceux qui sont impactés par ce retrait, bien, cette suspension, de s'adapter en fonction vraiment des autres opportunités qui sont là. Et du côté pays ou bien du côté réponse humanitaire même, cela aussi a été fait pour encore voir peut-être des nouveaux donateurs en termes de remplacement ou bien même fournir le minimum vital en termes de projets arrêtés. Puisque un projet qui est en cours, qui est malheureusement arrêté systématiquement, c'est clair que ça va avoir des impacts malheureusement négatifs sur ceux-là qui sont en train d'être assistés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dans tous les cas, dans toute réponse humanitaire, il y a ce que nous appelons les organisations de premier recours. Que ce soit du côté du système humanitaire des Nations Unies, il y a ceux qui sont là qui devront en temps se mobiliser pour que les gaps urgents qui ne sont pas couverts puissent être couverts. Et les zones où nous intervenons, les pays où nous intervenons, ont aussi ont ce mandat ou bien cette obligation de couvrir des situations comme ça. Donc, c'est entre autres alternatives qui ont été mises en place. Maintenant, les zones laissées, là, vraiment, c'est en fonction des nouvelles opportunités que nous trouvons, qu'elles sont orientées là où il y avait ce financement qui n'est plus, ou bien même à revoir toute la priorisation géographique des zones d'intervention pour voir quelles sont les zones qui sont devenues encore plus prioritaires du fait de cet arrêt, encore réorienter en tout cas vraiment l'intervention. Maintenant, la révision des priorités, ça c'était la première chose que nous avons faite au niveau de notre zone d'intervention, de notre pays d'intervention. Dès qu'on a eu l'information, vraiment nous avons revu notre planification humanitaire en cours, donc pour 2025, ce que nous avons appelé un plan B. Et nos ambitions du coup ont été diminuées. Tout le monde l'a reconnu puisque c'était un gros financement que le pays recevait, mais le retrait là ou bien la suspension là a inconditionnellement a eu un impact. Donc, il faudra revisiter ou bien revisionner les ambitions. C'est ce qu'on avait fait pour revoir les cibles, pour avoir les zones, pour avoir les sites. Soit on a fini cet exercice depuis. Et à l'interne aussi, les différentes organisations, vraiment, ils sont en train de trouver les alternatives pour que les projets qui sont suspendus, qui sont arrêtés, puissent conduire pour le minimum vital. Certes, le paquet complet ne peut pas être complet et ne peut pas être déployé, bien le projet dans son intégralité ne pourra pas être déployé, mais on pourra voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver des vies surtout. Peut-être juste un dernier point pour le cas de là où j'interviens, par exemple, on a retenu que les activités de life saving. Donc, tous les secteurs humanitaires qui intervenaient, nous avons été appelés à un moment pour dire que ne voyez que les activités de life saving pour retenir. Donc, si vous avez des projets qui sont flexibles, qui peuvent aller vers ces activités, allez-y vers, laissez tout ce qui est résilience, tout ce qui est. Déjà, le développement, ce n'est pas ça, ce n'est pas nous. Mais donc, nous n'étions que de l'humanitaire, mais au vu de la rareté de financement, peut-être que même la résilience, il faut mettre de côté, il faut aller seulement pour des activités qui vont sauver des vies. Et c'est ce qu'on avait fait depuis un certain temps. Et nous sommes toujours dans cette logique-là. Le temps de voir, en tout cas, d'autres opportunités qui vont être un peu annexées à ce qui est en train d'être fait déjà.
Là, on a parlé du coup des impacts sur les programmes et les projets. Pour maintenant parler un peu plus de l'impact sur l'humain, quelles sont les conséquences concrètes, ouais, de cette baisse de financement, bah, pour les communautés qui bénéficiaient des projets en termes, voilà, comme on a pu dire juste avant, d'accès à l'aide, de vulnérabilités qui vont augmenter ou encore de suppression et de rupture de services essentiels?
C'est clair, Asma, une communauté qui est en train d'être assistée, qui a tout perdu, qui n'a pas d'autres alternatives pour le moment, et que vraiment cette assistance est arrêtée ou bien diminuée ou bien suspendue. Du coup, ça le ramène dans une situation encore pire, hein, je dirais, puisque son focus était sur l'accompagnement et cette communauté est en train d'être reçue par les humanitaires et qui n'est plus là, et parfois malheureusement de manière brusque. Donc ça devient pur, ça aggrave la situation et ça pourrait aussi contribuer aussi à d'autres risques sécuritaires qui pourront encore aggraver la situation humanitaire en général. Donc, individuellement, pris par communauté, ça les vulnérabilise davantage et ça pourrait les exposer aussi à d'autres comportements, à d'autres alternatives négatives aussi, qui va encore à empirer leur situation. Peut-être que ce que je pourrais dire encore par rapport aux communautés, et malheureusement, certaines communautés ne dépendaient que de ça. Je dis malheureusement, on met le secteur, on peut le citer entre autres, sécurité alimentaire, on peut avoir des communautés qui sont assistées, qu'ils ne survivent que de la ration alimentaire qui leur est partagée périodiquement. Donc les alternatives n'étaient pas en cours pour voir, OK, au cas où ça s'arrête, les communautés en tant que telles ne pourront pas avoir cette idée en tête. Ils vont voir juste peut-être la période du projet, quand ça va arriver, mais étant donné que le projet n'était pas arrivé à terme, donc ils n'avaient pas cette idée. Et nous aussi, humanitaires qui déployons cette assistance-là, nous ne voyons que la fin du projet. Mais certes, le côté des activités pourront être menées pour leur préparer à la résilience au cas où on arrive en fin de projet. Mais on n'est pas arrivé en fin de projet, c'est-à-dire que cette surprise, cette rupture surprise ou bien cette rupture brusque va vraiment aggraver leur situation. Ça va aggraver la situation, mais bon, c'est clair que, il y aura un regain pour la résilience, mais ça pourra prendre du temps en fonction de la vulnérabilité de la communauté qui est assistée.
D'accord. Et pour terminer sur un autre aspect, on a vu du coup l'impact sur les projets, l'impact sur les communautés. Et maintenant, quel est l'impact sur les humanitaires sur le terrain, comme du coup avec votre situation, ou encore au siège, comment les humanitaires vivent cette situation? Est-ce qu'on peut parler de surcharge, d'incertitude, voire de risque de perte d'emploi?
Ouais, il y a tous ces éléments-là. La première chose, c'était la suppression, puisque il y avait des interventions qui étaient financées à 100%, mais avec ce tarif, ça veut dire que tout doit être arrêté. Les contrats de travail, c'était arrêté. Donc, certaines organisations sont rentrées dans un système de restructuration. Donc, un gros système, du siège jusqu'au niveau opérationnel. Et donc, ça sous-entend aussi la suppression de certains postes. Ça sous-entend aussi le cumul de tâches, même si ça ne peut pas être le cumul de postes. Au moins, on peut augmenter certaines choses. Ça sous-entend aussi effectivement la surcharge, puisque un département qui était animé par exemple par 10 personnes et qui maintenant va être animé par 2, 3, maximum 5 personnes. Donc les 5 autres personnes qui sont absentes, ça veut dire que ce qu'elles faisaient depuis va être fait maintenant par ceux-là qui restent. Ça sous-entend aussi, au-delà même de tout ce qui est lié avec l'emploi, ça sous-entend aussi le bien-être de ce personnel qui malheureusement parfois n'est pas vu. Un employeur qui perd son travail de manière brusque, inattendue. Donc le choc que cela pourra avoir, personne ne peut l'imaginer. Et quel serait aussi cet impact au-delà de l'employé, toute sa famille qui est là, toute sa communauté. Donc vraiment, cet arrêt du côté des organisations a eu des effets, ça c'est clair. La suppression des postes, la surcharge des tâches, l'accumulation des responsabilités, la restructuration et même, comme je l'ai dit, l'impact sur le bien-être de ceux qui sont concernés et même les autres qui sont restés, puisque tout le monde était sous le stress. Jusque-là, c'est pas fini, c'est progressif pour certains. Il y a toujours donc les possibilités de revenir. Donc, vous voyez, j'aime le dire dans mon jargon, c'est la tempête humanitaire qui est en cours. Ça fait bouger beaucoup de choses, ça fait bouger beaucoup de systèmes qui sont là, qui nous invitent à encore revisiter peut-être notre manière de faire de manière générale et aussi de manière particulière. Notre manière vraiment de mobiliser les bailleurs, les donateurs pour le financement de l'aide humanitaire.
Bah encore une fois, merci beaucoup pour ces réponses détaillées, Ousmane. Vraiment un grand merci d'avoir pris ce temps d'entrer dans le vif du sujet, ce temps de nous parler de justement la situation actuelle de l'humanitaire compte tenu des difficultés de financement que rencontre actuellement le secteur. Et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus, elles pourront en apprendre davantage dans les notes de cette interview.
Merci Yassine, à toi aussi pour les efforts et puis pour l'initiative. Et donc, nous encourageons tous les humanitaires, ça doit continuer. On est là pour sauver des vies et pour soulager des souffrances. À nous de voir quand un choc pareil vient, comment y faire face. Nous enseignons bien, nous accompagnons les communautés pour la résilience. Nous devons faire aussi l'autorésilience.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Parole d'Humanitaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à soutenir cette initiative en la partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur Parole d'Humanitaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous où que vous soyez.